J'ai d'abord pensé à une rhapsodie. Comme perpétuellement avant la catastrophe, c'est-à-dire écoutant, tendu, tout ce qui peut s'entendre alentour, et cela fait simultanément une sorte de bulle entre l'espace et soi, une gangue qui vient serrer le corps. Et rien ne se passe, la vie continue son cours, amenant sa dose d'inimaginable et de bonheur aussi pourtant. Ainsi, marchant dans la rue, il y a grand plaisir à contempler la lumière ou regarder celles et ceux qui marchent, simplement pour voir comme l'espace s'édifie dans le corps. Et ce qui se donne à voir est si variable. Une catastrophe prête à éclater et qui n'éclate pas, ou qui éclate d'une manière tellement imprévisible qu'on ne peut savoir que c'est elle, je n'arrive à en donner que des figures, échappées de fenêtres ouvertes, des morceaux de verre sur un trottoir, une frustration qui se prolonge parce que rien n'apparaît vraiment, rien ne se brouille non plus. Il y a le cœur qui bat et qui s'extasie d'entendre battre d'autres cœurs que le sien, et si l'arrière-pays présente comme une zone d'ombre, il y a le corps qui avance, et avec lui d'autres corps en résonance, prompts à se dérouter, je veux dire, là pour faire face. La catastrophe, c'est peut-être aussi vivre depuis longtemps avec les mêmes interrogations que j'ai peine à savoir si c'est de l'enfance ou d'une reconstitution tardive qu'elles reviennent en marchant, par exemple, qu'est-ce que le ciel et pourquoi ce bleu et pourquoi ce nom? Aucune réponse ne venant combler l'appel du vide engendré par les questions. Ce n'est d'ailleurs pas le mot catastrophe qui convient pour dire l'effroi, la stupeur, et cette curiosité toujours très forte. Il y a bien une appréhension, mais celle-ci est à la fois créatrice de mélancolie. Charles d'Orléans, c'est toi que je nomme dans ce mot, où passe un ciel sans étoiles, d'attente et de joie. Un état de suspens, donc, une impulsion dans le corps, faisant se rencontrer et l'angoisse et le désir, alors même qu'aucune affirmation n'est possible. Mais avec le mot suspens, quelque chose ne s'entend pas et qui est de l'ordre de la marche. Si quelque chose doit s'effondrer, c'est en marchant que survient ce risque ou cette épreuve, ou même, plus simplement, cette prise de conscience. En fait, le plus étrange est que, dans cette catastrophe ou dans la possibilité de son avènement, tout passe par les mots alors que je me heurte à une grande vacuité, et que, mais puis-je le dire sans crainte, nous les aimons. Une grande vacuité, c'est-à-dire, je sens bien que j'ai quelque chose à te dire, pas une grande idée, certes, mais l'arrêt, ça vient de qui suis-je pour dire je? Il s'agit peut-être de se libérer du poids des mots et faire entendre le silence qui vient lui-même de ce poids, mais c'est comme si aucun mot n'était disponible. Aucun mot disponible, ça veut dire quoi? Question de ce qui pèse dans ce qui semble disponible, le mot mouette, par exemple, et les circonvolutions de son vol au-dessus de la Seine. Pourquoi indisponible celui-là? Parce que les 13 syllabes d'un vers de Verlaine rencontrés dans l'enfance, parce que l'intraduisible d'un poème de Celan, parce que c'est du silence qu'il faut faire entendre, et ce mot, comme un autre, ne se libère d'aucune de ses sonorités. Aucun mot disponible, ça veut dire comment se libérer du poids des mots pour te faire entendre le silence qui viendrait lui-même de ce poids, peut-être. La part du silence est profondément inscrite dans le corps et qui me l'a appris. Écouter le silence, c'est écouter son corps, en avoir une si parfaite conscience qu'on en arrive à l'oublier. Et chaque mot nourrit la réserve de silence dans le corps, même s'il y a en eux aussi et simultanément une masse sonore, parfois totalement paralysante. Pour le violoncelle, avec les deux premières suites de Johann Sebastian Bach. Silence à l'origine, puis comme une hésitation pour mieux englober deux axes comme jamais auparavant, violoncelle vertical, horizon violoncellé presque. Silence à l'origine, puis comme le sifflement d'une pierre lancée, et déjà le trait dans l'onomatopée, et, disent les dictionnaires, la source du violoncelle et toute sa famille, faire vie. Mais n'est-ce pas dès maintenant la dissimulation de la vivacité dans la viole, ou la vielle que la mémoire du mot fait entendre, ou qu'il fait ressurgir comme jamais. J'entends aussi comme j'aimais, ce verbe-là toutefois toujours au présent. Silence à l'origine donc, puis une histoire italienne, celle du pli dans la peinture peut-être. On n'en est jamais loin avec toi. Viola, la viole. Violone, la contrebasse, augmentatif de la précédente. La contrebasse est une grande viole. Violino, diminutif masculin de la viole, toujours, et pas besoin de traduire. Une petite viole, on est loin du petit viol de Ludovic de Grotte. Violoncello, diminutif du deuxième, comme si Janosch Starker jouait de la contrebassette. Et comment l'histoire du monde, s'il en était ainsi. Et dans le violoncelle, avec les deux dernières références, presque un azur mélancolique. Violoncello, violoncelle, violon, ciel. Et ce qui s'ajoute, le vol ou le viol du temps. Bonjour, monsieur Lucas. Le violoncelle est une histoire de famille, mais une histoire de souffle également. Je veux dire le violoncelle comme un instrument à vent, un instrument pneumatique, et dans les haubans de l'enfance, cela faisait vie toute la nuit dans les ports, un instrument qui demande le souffle, qui exige qu'on l'entende. Viennent alors les lieux communs, et l'urgence à les nommer pour, si ce n'est leur tordre le cou, du moins les tenir à distance. Violoncelle, voix humaine, corps entre les cuisses, mon Dieu, une femme au violoncelle, Maneret, même si c'est un hommage à Ingres. Et c'est le moment de dire les absences, ni Mozart, ni Beethoven, ni Brahms, pour nous concerter, mais Haydn, Dvorak ou Saint-Saëns, et beaucoup d'oubli. Horizontal, vertical, un silence, un autre silence, il s'agit aussi d'oublier dans l'écoute les réflexes du savoir. Le violoncelle s'arrête et l'espace tremble. Quelque chose de la vibration s'est prolongé, puis cela s'est tu, et nous voilà dans la stupeur, c'est-à-dire dans le suspens, un vrai pas suspendu comme un signe réactivant l'écoute. Alors, le violoncelle peut rompre le silence avec une précision qui fait tout entière la mesure de l'espace. Celle-ci de saisir aussitôt le corps de l'assistance, et nous y sommes, afin de réactiver l'écoute et de savoir que tout arrive en elle. Et moi, d'entendre instantanément les deux premières suites de Bach que Jacqueline Dupré avait enregistrées en janvier 1962. Mais quand elle entre dans le poème, est-ce un écho lancé dans le vide, avec, dans le son si présent, les frottements de l'archet et parfois le souffle qui est un fantôme pour creuser l'espace innommable entre la vie et la mort. Celui désigné peut-être, à moins que dessiné, par le passage d'une corde à l'autre, d'un doigt à l'autre, pas trop de vibrato, s'il vous plaît, ne masquez pas le ciel, les accents, les échos sont là pour rappeler la verticalité du son. La main droite tient l'archet et dit, selon la manière de tenir, une histoire d'école, ou mieux, une remontée dans le temps, en même temps qu'elle modifie le son, la manière de le tendre vers l'espace et de l'entendre. Mais les enregistrements sont toujours un fantôme de la musique pour désigner comme un panthéon du temps passé qui ne revient jamais, n'est-ce pas, monsieur Apollinaire, et la liste d'autrefois, Dupré, Starker, se complète avec Casals, Fournier, Tortelier, Bilsma, Suzuki, etc. Et de voir surgir avec ces fantômes les deux objets, violoncelle et archet, abandonnés seuls et presque monstres, sans regard aucun, sans veille, délaissés du corps, du souffle et du son. Ils sont une histoire de lumière en puissance. Prélude, allemande, courante, sarabande, menuet, gigue, deux fois six stations pour éprouver le pli du temps, avec ce lien toujours permettant la rencontre de l'horizon et de la hauteur, et comme au-delà de toute distance, quelque chose de l'évidence du désir, envol de l'ombre et de l'envie.